10e épisode de notre série d'émissions pour comprendre et débattre sur le thème de la démocratie. À notre micro, Paul Masson. Salut Paul.
Bonjour.
Ancien formateur d'adultes, membre d'ATTAC et militant de l'éducation populaire avec toi dans cette émission. Donc on parle de démocratie. Aujourd'hui, on aborde le virage néolibéral des années 80-90. Autrement appelé par certains contre-révolution néolibérale. Alors, comment ce tournant s'opère dans ces années-là?
Alors, c'est ce qu'on a appelé aussi la mondialisation. En gros, il s'agit de diminuer la part de la valeur ajoutée qu'on distribue aux travailleurs. Et la manière de procéder, ça a consisté à mettre en concurrence les travailleurs sur un marché mondialisé. Il y a des secteurs du monde, dont l'Europe, où les travailleurs ont des droits, où les travailleurs ont une protection sociale. Et ça coûte à l'entreprise. Alors, ça coûte l'argent qui est pris, c'est les travailleurs qui l'ont produit. Mais ça coûte. Si on réussit à faire en sorte que ce soit des travailleurs qui n'ont pas de protection sociale, qui n'ont pas de droit du travail, voire qu'ils soient dans des pays où les normes dictatoriales sont plus fortes, ça coûtera moins cher. Donc la mondialisation, ça a consisté à faire en sorte que les entreprises changent de territoire et aillent s'investir à l'endroit où le profit est le plus intéressant pour eux. Cette approche-là a été théorisée par l'administration Reagan aux États-Unis, par l'Angleterre de Madame Thatcher, par la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, et l'Union européenne va se convertir au néolibéralisme. C'est ce qu'on a appelé le consensus de Washington. Dans cette approche économique, ce n'est plus comme en 1945, aux politiques de penser et d'organiser le contrat social en fonction de la vision générale qu'on en a. Ce n'est plus à l'État d'assurer les services publics, d'anticiper les difficultés, de réguler l'économie, la monnaie. C'est le marché qui régulera tous les rapports sociaux. La superstructure capitaliste demande aux États de ne pas perturber la libre concurrence. La formule de Reagan, l'État n'est pas la solution, c'est le problème. En 1945, on attendait de l'État de réguler, et maintenant on dit il ne faut plus que l'État intervienne, parce que l'État, en intervenant, pose problème au libre marché. La stratégie de Lisbonne, c'est la mise en œuvre en Europe du modèle néolibéral. Pour ça, les États vont se donner une superstructure qui va les remplacer, c'est l'Organisation mondiale du commerce, qui est créée en 1995. Elle donne un cadre au marché international et après auront lieu les accords commerciaux passés entre les États. Pour l'instant, celui qui est à l'ordre du jour, c'est le Mercosur entre l'Union européenne et le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay, le Paraguay.
Alors, ce qui rend possible cette mondialisation, c'est à la fois les progrès dans le domaine des transports de marchandises et puis l'allègement des droits de douane, la libre circulation des capitaux, des marchandises.
Voilà, ça va être en fait les lois internationales qui vont changer. Au lieu d'être prises, ces lois par les États, elles seront prises par le marché. C'est un changement qui a des incidences énormes. Je pense qu'il y a deux sujets dont on parle beaucoup ces derniers jours. ArcelorMittal, la sidérurgie. ArcelorMittal, c'est un groupe mondial. Le siège est au Luxembourg. Le patron principal, c'est un milliardaire indien. Pourquoi il s'installerait à Dunkerque ? Où il s'installerait en Lorraine. Il n'a aucune raison de privilégier ces territoires. Il existe au monde des endroits où il pourra faire davantage de profit. S'il n'y a plus de sidérurgie dans l'Europe, eh ben l'Europe ira s'alimenter ailleurs. Pour le capitalisme, ce n'est pas un problème. Pour les États européens, c'est un problème. Le Mercosur, si l'accord est signé, la viande produite en France ne sera pas compétitive avec le bœuf argentin où les fermes font 700 vaches et qui produisent sans respecter les normes sanitaires et écologiques de la France ou de l'Union européenne. L'accord, s'il était signé, prévoit même que si l'Europe venait à changer ses règles, les entreprises des pays du Sud pourraient porter plainte pour modification du contrat. On avait le droit d'envoyer de la viande avec des hormones en France. C'était dans les contrats. On échangeait de la viande contre des voitures. Vous contraignez de ne plus mettre des hormones. On a un manque à gagner et l'entreprise porte plainte contre l'Union européenne pour ne pas respecter le marché.
Alors, tu nous parles de matières premières, tu nous parles de produits manufacturés, mais ce virage néolibéral concerne aussi d'autres services, et notamment des services publics ou des services liés au contrat social de 45.
Effectivement, le deuxième point fort, c'est qu'il faut faire en sorte que toute l'économie passe par le marché. Or, dans le contrat de 1945, il y avait toute une partie de l'économie qui échappe au marché. La sécurité sociale, les retraites, les services publics n'ont pas été pensés en fonction du marché. Ils ont été pensés en fonction du besoin. Et c'est des sommes considérables. Le budget 2025 de la sécurité sociale, j'ai recherché le chiffre, 666 milliards d'euros. C'est des sommes énormes. Et ils échappent au marché. Et pour quelle raison vous prendriez une assurance chez AXA pour votre santé si vous avez un système de sécurité sociale qui vous garantit des soins? Vous ne le ferez jamais. Si vous voulez refiler ça au marché, il faut commencer par casser la sécurité sociale. Pour quelle raison vous placeriez de l'argent en prenant le risque que quand vous arriverez en retraite, cet argent aura perdu de sa valeur si vous avez une retraite qui est liée au fait que vous avez de votre travail? Vous ne le ferez pas. Donc il faut casser le système des retraites pour faire en sorte que les gens s'adressent au secteur privé. Et tout ce qui était solidarité nationale qui doit assurer la sécurité des citoyens ou l'égalité au service public doit être cassé pour le refiler au marché. Il faut créer une insécurité sociale pour que les citoyens s'assurent à des sociétés d'assurance. Pour les services publics, c'est pareil, il a fallu tout privatiser, la Poste, la SNCF, EDF, GDF, tout ça, il fallait le privatiser. Et en le privatisant, on change de logique. Les salariés de la Poste ou d'EDF n'ont pas pour but de faire en sorte que la Poste marche bien ou que le service soit bien rendu. Ils ont pour faire en sorte que le service soit rentable. Ce mécanisme-là, il y a quelqu'un qui a été très, très explicite. Je vais vous le citer. Denis Kessler, c'était l'ancien vice-président du MEDEF. Dans un article qui s'appelle « Adieu 1945 », il explique clairement l'affrontement entre le programme du Conseil national de la Résistance et le programme néolibéral conduit par le gouvernement, c'était Fillon, qui était Premier ministre, et Sarkozy, président de la République, au moment où il écrit ce texte. Je vous le lis, il est parlant. Le modèle social français est le pur produit du Conseil national de la Résistance, un compromis entre gaullistes et communistes. Il est temps de le réformer et le gouvernement de Sarkozy, s'y emploie. Les annonces successives des différentes réformes par le gouvernement peuvent donner une impression de patchwork, tant elles paraissent variées, d'importance inégale et de portée divers. statut de la fonction publique, régimes spéciaux des retraites, refonte de la sécurité sociale, paritarisme. Il y a une profonde unité à ce programme ambitieux. Donc toujours le programme du gouvernement Fillon-Sarko. La liste des réformes, c'est simple. Prenez tout ce qui a été mis en place entre 1944 et 1952 sans exception. Elle est là. Il s'agit aujourd'hui de sortir de 45 et de défaire méthodiquement le programme du Conseil national de la Résistance. C'est parlant. Après 40 ans de néolibéralisme, les entreprises ont reconstitué leurs marges et Bernard Arnault, Vincent Bolloré en France ou Bill Gates, Elon Musk, Warren Buffett aux États-Unis ont vu leur revenu considérablement augmenter. Warren Buffett, un des très riches Américains, disait, il est mort depuis, « Il y a une guerre des classes. C'est un fait. C'est ma classe, la classe des riches qui mène cette guerre et nous sommes en train de gagner. » Vous voyez ce qu'a été et ce à quoi correspondait ce virage néolibéral. Cependant, au moment du coronavirus, lorsqu'en France, on n'a pas des masques, c'est trois fois rien. Et on ne peut pas le produire en France. Ça pose quand même question de dire ce découpage, il pose énormément de problèmes. Mais surtout, cette politique-là, elle a été expérimentée au Chili dans une dictature. C'est-à-dire au moment où les gens n'ont pas la possibilité de dire ce qu'ils veulent. Si on veut pouvoir tenir ce type de dictature, le problème, c'est la démocratie.
Alors justement, c'est une des contradictions, c'est comment ce virage néolibéral a pu avoir lieu dans un État qui était démocratique. Je veux dire, la majorité des gens auraient pu voter autrement et auraient pu choisir une autre direction.
Effectivement, ça supposerait presque une séance entière pour expliquer la manière dont, depuis ce virage néolibéral, à la fois on a des politiques qui se tiennent tous, qui fait que les gens n'arrivent plus à différencier qu'est-ce que c'est qu'une politique de gauche par rapport à une politique de droite, et surtout, il y a eu toute une stratégie, on ne va pas nous dire qu'on veut casser la sécurité sociale, on dit on veut sauver la sécurité sociale. C'est pour ça qu'il faut diminuer les revenus qu'on donne aux malades. On ne va pas nous dire on veut casser le système des retraites, on dit on veut sauver les retraites. Il va y avoir, et ça fait plus de 20 ans, toute une stratégie pour ne pas dire ce qu'on veut faire et voir dire le contraire de ce qu'on veut faire parce qu'on a conscience que ce qu'on veut faire, les gens n'en veulent pas.
Paul, merci. On se retrouve bientôt pour la suite de cette série d'émissions pour comprendre et débattre sur le thème de la démocratie. Je rappelle que ces émissions sont à retrouver sur radiopfm.com et sur ton site perso paulmasson.atimbly.net. On se quitte, Paul, en musique avec Bernard Lavilliers.
Bernard Lavilliers, travailler encore.
Un grand soleil noir tourne sur la vallée, cheminées muettes, portails verrouillés, wagons immobiles, tours abandonnées, plus de flammes oranges dans le ciel mouillé, on dirait la nuit de vieux châteaux forts, bouffés par les ronces, le gel et la mort, un grand vent glacial. Fais grincer les dents, monstre de métal qui va dérivant. Je voudrais travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, acier rouge et mains d'or. J'ai passé ma vie là, dans ce laminoir. Mes poumons, mon sang et mes colères noires. Horizon barré là, les soleils très rares, comme une tranchée rouge saignée sur l'espoir. Le soir, des navires de guerre, battus par les vagues, rongés par la mer, tombés sur le flanc, giflés des marées, vaincus par l'argent, les monstres d'acier, voudraient travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or, travailler encore. Travailler encore, acier rouge et main d'or. Je peux plus exister là, je peux plus habiter là. Je sers plus à rien, moi, y'a plus rien à faire. Quand je fais plus rien, moi, je coûte moins cher que quand je travaillais, moi, d'après les experts. Je me tuais à produire pour gagner des clous. C'est moi qui délire ou qui deviens fou. Je peux plus exister là, je peux plus habiter là. Je sers plus à rien, moi, y'a plus rien à faire. Je voudrais travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, acier rouge. Et main d'or, travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or, travailler encore, acier rouge, et main d'or, travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or.